Les décodeurs jusqu'à 19h.
Avec Christian Robert ce soir qui nous fait l'amitié d'être là pour les histoires d'Auvergnat, ces deux livres écrits aux éditions des Monts d'Auvergne. Bonsoir Christian.
Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous.
C'est dingue, vous n'avez pas changé depuis la dernière fois.
Merci, il
faut dire. Pourtant, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu pour
oui,
le coup.
Oui, quelques mois.
Oh là, l'été est passé, l'automne est passé. Heureusement, on fait ça avant l'hiver.
Oui.
Comment allez-vous?
Bien, merci.
Bon. Deux Auvergnats que nous allons découvrir ce soir, qui font partie de ces ouvrages, des histoires d'Auvergnat, deux tomes. Là, on va s'intéresser au tome 1, avec deux des Auvergnats qui s'y trouvent. Juste pour rappeler l'esprit, c'est vraiment l'histoire d'Auvergnat, alors pour certains très connue, pour d'autres moins, mais franchement, c'est passionnant, ça se lit super bien. J'ai évidemment lu en intégralité les deux. Et ce soir, on va s'intéresser à, dans un premier temps, un homme qui s'appelle Mondory. Et là, je prends le pari, s'il y a un auditeur sur 1000 qui connaît Mondory, on est déjà dans la fourchette haute. On est d'accord?
Oui.
Bon. Tout le monde connaît au moins le nom du Cid de Corneille. Mais personne ou presque ne connaît Mondory. Et pourtant, sans le second, il n'y aurait peut-être pas eu le premier.
Tout à fait.
Hein? Ça a été l'un des plus grands comédiens français du XVIIe siècle.
Ça a été la première partie du XVIIe, oui. Après, il y a eu Molière. Mmh. Mais avant Molière, il y avait donc Mondory, qui était vraiment Alors vedette, le terme était peut-être pas approprié à l'époque, mais c'était la personnalité dans le théâtre qui était la plus connue, qui était adoubée par Richelieu, anoblie par Richelieu en plus, et soutenue par Richelieu. Au-delà de cela, également le royaume de France soutenait Mondory.
Allez, on va découvrir une partie de sa vie. Cet homme né le 13 mars 1594 à Thiers, donc en Auvergnat,
oui.
Sous le nom de Guillaume Dos Gilbert.
C'est ça.
Son vrai nom, c'est ça.
Oui, parce qu'en patois, dos voulait dire deux.
Oui, ce qui est assez cohérent.
Patois, bien.
Famille de bonne bourgeoisie, fait des études avec l'aide d'un précepteur. À 15 ans, son père l'envoie à Paris pour étudier le droit, ce qui en même temps va protéger son fils de l'épidémie de peste qui sévit en Auvergne, donc il y avait double effet. Et puis là, à Paris, il découvre carrément un autre monde.
Eh bien oui, parce que déjà, il découvre la vie animée de Paris, et puis le procureur chez qui il va travailler, qui aime le théâtre, les arts à Paris, va l'encourager le dimanche à s'intéresser à la culture, aux arts. Et c'est là que Mondory va commencer, enfin Guillaume de Gilbert à l'époque, va commencer à être sensibilisé par les arts du théâtre.
Et oui, et tout ça lui donne envie de devenir comédien, sauf qu'à l'époque, Christian, devenir comédien, c'était pas forcément bien vu, hein.
Alors c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous étiez excommunié, vous perdiez vos droits civils,
voilà.
Vous perdiez à peu près tout, ce qui fait que tous les comédiens de l'époque avaient un nom d'emprunt, et Guillaume de Gilbert, quand il va décider d'être comédien, va prendre le pseudonyme de Mondory.
Voilà, c'est de là qu'est venu le Mondory, qui va être son nom finalement d'artiste tout au long de sa vie.
Oui.
Pas bien vu par l'Église, pas bien vu par ses parents non plus. Hein.
Non, son père, qui était un notable de Thiers et qui était en relation avec la cour de Henri IV, comment pouvait-il imaginer que son fils puisse un jour devenir comédien? Il le saura beaucoup plus tard.
Ouais. Alors du coup, il commence par être engagé par une troupe. On est loin de la vie facile que l'on peut imaginer. Hein. C'est quand même un univers très rude, hein, l'univers des comédiens.
Oui, parce qu'au début, il n'y a qu'une troupe royale qui est à Paris, qui elle vit à peu près avec les moyens qu'il faut pour le théâtre, alors que toutes ces troupes de saltimbanques qui partaient en tournée dans le royaume et en France étaient quand ils arrivaient dans un village pour jouer, ils étaient même pas sûrs d'être acceptés de pouvoir jouer. Bien sûr, ils mangeaient pas à leur faim. Enfin, c'était très compliqué. Sauf si un seigneur un jour tomber amoureux d'une troupe et l'aider un peu, mais c'était passager quand même.
Là, effectivement, quand ils étaient embauchés, entre guillemets, par un noble ou dans un château, forcément, là, les conditions étaient chouettes.
Voilà.
Mais bon,
mais ça durait pas très longtemps.
C'est ça, le reste du temps, c'était pas non plus la grande joie. Alors, il va quand même sillonner les routes de France pendant 20 ans. Alors, de France, mais pas que, puisqu'il va aussi dans plein de pays étrangers.
Oui, tous les pays frontaliers, notamment la Hollande avec le duc d'Orange. La Belgique, il me semble, j'ai plus trop en tête mais c'était des pays limitrophes de la France. Mmh. Et là aussi, il va rencontrer le succès.
Oui, il devient un acteur réputé, il devient un acteur finalement complètement incontournable, Mondorio, au XVIIe siècle.
Eh bien oui, parce que sa manière de déclamer, parce qu'à l'époque on déclamait,
ouais.
C'est avec Molière qu'après on apprendra la diction au théâtre, donc il faut pousser la voix, mais il a une présence, tous les spécialistes, tous les historiens, tous les écrivains de l'époque, il y a des écrits, tous louent la personnalité de Mondori, sa faculté à occuper l'espace et à se démarquer, et il va devenir le comédien par excellence de cette époque.
Et comme pour tout, c'est le point commun entre tous les Auvergnats et toutes les Auvergnats des deux livres des histoires d'Auvergnat, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a une rencontre. Une rencontre qui fait tout basculer, une rencontre qui change le destin, le cours d'une vie. Et bien lui aussi, Mondori, va faire une rencontre qui va avoir quand même une grande importance. C'est un jeune avocat. On va vous présenter cet avocat et les conséquences que cela aura sur la carrière de Mondori, mais aussi sur celle de ce jeune avocat. Dans quelques minutes, Christian Robert pour les Histoires d'Auvergnat est ce soir l'invité des décodeurs.
Tour de table et tour d'horizon en Auvergne. Les décodeurs jusqu'à 19h.
Des larmes descendent le long de longs sanglots. Le vacarme soudain dans la chambre du
Aventure.
Eh ben c'est le, ouais, c'est Pascal Obispo. Allons en fan sur France Bleu à 18h26.
Actu spectacle, concert. Suivez l'Auvergne dans les décodeurs.
Avec ce soir, Christian Robert, toujours un plaisir de vous accueillir. Ces histoires d'Auvergnat que vous avez écrites dans deux tomes aux éditions des Démons d'Auvergne. L'idée, c'est de mettre à l'honneur des Auvergnats remarquables. Certains sont aujourd'hui encore très connus, d'autres moins, comme celui dont nous parlons ce soir dans la première partie, Mondory, qui a pourtant été l'un des plus grands acteurs français de la première moitié du XVIIe siècle, un natif de Thiers. Je me demandais d'ailleurs naïvement son pseudo, Mondory, c'est un rapport avec le Mont d'Or ou pas du tout?
Non, alors il y a plusieurs hypothèses sur le fait qu'il ait choisi Mondory, donc je ne m'avancerai pas, on va en choisir une. Il n'y a aucun spécialiste qui s'est mis d'accord sur... On n'a pas le...
Bon, en tout cas, il a été, je le disais, vraiment un des plus grands. Et un jour, il y a une rencontre. Une rencontre avec un jeune avocat. Comment il s'appelle cet avocat?
Alors, c'est un jeune avocat qui venait timidement présenter à cette grande vedette de Mondory,
oui,
un texte en lui demandant si un jour ses vers pourraient peut-être être joués.
Bon,
et Mondory, qui a l'humilité de l'écouter,
oui,
ce jeune avocat de à peine 20 ans s'appelait Corneille.
Et il lui propose Mélite.
Oui.
Une pièce, un texte qu'il va mettre en scène.
Eh bien oui, parce que du coup, il repart à Paris. Mondory, c'était à Rouen que ça se passait, puisque Corneille était à Rouen. Et il va étudier le texte, il va le trouver magnifique, et il va lui proposer de le jouer, de le mettre en scène et de le jouer.
Et ce sera un succès.
Et ça sera un succès.
Ouais, il va travailler ensuite sur d'autres pièces de Corneille.
Oui, oui, quasiment toutes. Celles de Corneille, du temps du vivant de Mondory, jusqu'à ce que un jour, Corneille lui apporte un texte. Mondory tombe bouche bée devant ce texte quand il le lit, et en fait on parle du Cid. Mmh. Et donc Mondory sera le premier à mettre en scène le Cid et à jouer Rodrigue.
Voilà, autant dire qu'on est, voilà, juste sur la pièce que tout le monde connaît, même voilà, si on ne sait plus de quoi exactement de quoi ça parle. À un moment ou à un autre, on l'a étudié à l'école, ça a traversé les siècles, et c'est évidemment toujours joué aujourd'hui.
Et voilà, et c'est si Mondory, au départ, n'a pas l'humilité d'écouter ce jeune, et puis ensuite de mettre en scène toutes ses pièces, de les jouer, ce qui fait et puis en même temps, il introduit Corneille à la cour. Corneille est apprécié par tout le monde, et jusqu'au Cid, là où on touche le sublime, quoi,
ben
à
ouais,
cette époque-là.
Mais voilà, un Auvergnat.
Tout à fait.
Et derrière Pierre Corneille. C'est lui qui, oui, sans lui, peut-être que Pierre Corneille n'a pas la carrière qu'il a.
Ben, c'est une question que.
Ne devient pas un homme d'histoire.
Ouais, on n'a pas la réponse, effectivement.
Mais il y a un Auvergnat derrière.
Voilà.
Vous le saurez, Laurent,
comme d'habitude.
L'Auvergnat est modeste, par contre, normalement.
Tout à fait.
Mondory, retenez son nom. Alors, en 1634, il y a le jeu de paume de La Fontaine. C'est une salle où on joue, hein, on fait, oui, du théâtre. À Paris, elle est ravagée par un incendie. Finalement, il n'y a pas tant de salles que ça à Paris,
non,
contrairement à ce qu'on pourrait croire. Du coup, Mondory va acheter son dévolu sur le jeu de paume du Marais. Il va le louer. Il va faire réaliser d'importants et très coûteux travaux. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un certain Richelieu qui était un peu fan de Mondory. Donc du coup, ça a facilité aussi les finances. Et c'est la naissance du théâtre du Marais en 1635.
Voilà.
Alors je vous laisserai découvrir dans le livre, parce que là on va pas rentrer là-dedans, mais dans le tome 1, vous découvrirez la guerre entre la troupe des comédiens du roi, la troupe royale, l'une qui est soutenue par Louis XIII, l'autre par Richelieu. On va plutôt aller quelques années plus tard.
Et puis c'est aussi la naissance de la Comédie française et de, voilà, l'Académie française à cette époque-là.
Oui, mais ça vous le lirez dans, oui, le livre. Mondory, c'est vraiment une star, et son heure de très grande gloire arrive donc avec ce Cid de Corneille, mais quelques temps plus tard, très, très vite d'ailleurs, en 1637, au cours d'une représentation, eh ben, il fait un AVC. On appelait ça autrement à l'époque.
Oui, c'était l'apoplexie
de la langue.
De la langue.
Là, ça s'appelait comme ça, l'apoplexie de la langue. En fait, bon, voilà, on sait que c'est un AVC. Du coup, il va avoir des difficultés pour parler, il va être handicapé d'un bras. Et là, il se retire à Thiers. Il quitte les scènes, il se retire à Thiers. Il va y passer d'ailleurs, Christian, les dernières années de sa vie.
Tout à fait. Hein. Avec l'appui financier de Richelieu, de Anne d'Autriche, de je sais plus qui encore,
aide,
mais
quand même.
Voilà, et ben il a été, on lui a donné des titres, ce qui faisait qu'il avait des pensions pour pouvoir vivre à Thiers en étant handicapé en fait.
Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'oubli? Parce qu'il a rien écrit lui-même.
C'est le grand mystère. C'est le grand mystère parce que Talmont des Réaux, qui était un écrivain gazetier de l'époque, avait beaucoup écrit sur les comédiens de théâtre, notamment sur Mondory. On retrouve des écrits, c'est aussi en partie sur ces écrits que je me suis appuyé pour la véracité, pour vérifier la véracité de la vie de Mondory. Mais c'est un grand mystère. On a retenu Molière après.
Oui.
Mondory, j'avais un.
Mais Mondory, il écrivait pas lui-même.
Non.
Voilà. Molière, lui, oui.
Oui.
Et voilà. Donc c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écrit, même si c'était un metteur en scène de génie, un acteur de génie, son nom n'est pas forcément sur la première page des œuvres. C'est bien dommage. Il y a des rues quand même, des endroits qui portent son nom.
Ah, alors il y a un lycée à Thiers qui s'appelle Mondory.
Ah, bah c'est bien.
Oui, mais pour l'anecdote, une fois je faisais des recherches à Thiers sur Mondory justement, ouais. Et il y avait des personnes qui allaient au collège, au lycée, et je leur ai demandé, mais vous savez pourquoi le lycée Mondory s'appelle Mondory? Et j'ai eu du mal à obtenir des réponses.
Ouais, mais ça m'étonne pas.
À Thiers. Bon.
Justement, il est urgent d'aller découvrir le reste de son histoire dans le tome 1 des histoires d'Auvergnat, signé Christian Robert. Tiens, vous avez eu la gentillesse de nous emmener un tome 2, Christian.
Oui.
Pas pour moi. Moi, je l'ai déjà. Mais pour l'un de nos auditeurs ou l'une de nos auditrices, il est à gagner maintenant au 04 73 34 2000. Pour cela, je vais vous demander de nous donner le nom de l'artiste que vous connaissez sans doute, puisqu'elle a un jour prononcé dans sa carrière ces phrases absolument mythiques.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère. Est-ce que je suis une gueule d'atmosphère?
Bon, c'est qui? Allez, vous nous le dites au 04 73 34 2000, sa voix est reconnaissable entre 1000 quand même. Hein.
Oui.
Et vous gagnez le tome 2 des histoires d'Auvergnat de Christian Robert, qu'il vous fera l'amitié de vous dédicacer, bien évidemment, puisque vous êtes comme ça, Christian, vous n'allez pas ne pas dédicacer.
Bah oui, l'Auvergnat est généreux.
Mais bien sûr. Bien. Ça, c'est nouveau, par contre. Là, il faut nous le dire si ça change. 04 73 34 2000. Allez-y, donnez-nous le nom de cette personne, vous gagnez le livre. Et puis, cette personne, on en parlera d'ailleurs. On parlera de sa vie dans la deuxième partie des décodeurs. À tout de suite.
Prenez le pouls de l'Auvergne. Écoutez les décodeurs.
Face. I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Wherever
C'est tout mignon, j'adore cette chanson, c'est Colby Kayat avec Bubbly. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, vous êtes de quel secteur, quelle ville?
Saint-Christophe, c'est à près de la Palisse.
Ah oui, beau château d'ailleurs, oui, c'est vrai, la Palisse.
Ah oui.
Avec une grande histoire, maréchal de la Palisse.
Ah, oui.
Ne le lancez pas sur la Palisse, notre ami Christian, Michel, sinon on en a jusqu'à 20h.
Oui, mais l'histoire du maréchal de la Palisse est dans le tome 2.
D'accord. D'ailleurs, Christian vient de le dire, maréchal de la Palisse, dans le tome 2.
Son histoire est dans le tome 2.
Celui que vous allez peut-être gagner.
Voilà.
Si vous nous dites à quel artiste appartient cette voix reconnaissable entre mille.
C'est la première fois qu'on prête d'atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bon, bah, c'est qui cette gueule d'atmosphère?
Arletty.
Bah, oui, bien sûr, Arletty. Là, on est quoi? Là, on est dans Hôtel du Nord, là.
C'est ça.
De Marcel Carnet avec Louis Jouvet sur le pont, sur le petit pont. Mmh. Et après, elle part en lui laissant son sac. Et voilà, c'est une scène mythique en 1938. Oui. Eh ben, écoutez,
avec
bravo.
Cette expression, même après guerre.
Ah ouais, et puis là, cet accent, mais alors cet accent, il est, c'est pire que le parisien, quoi. C'est le parisien ultime, là. Bah, bravo Michel, vous pourrez régaler des histoires d'Auvergnat, le tome 2. Franchement, c'est très très bien, très très bien. Que Christian Robert va d'ailleurs vous dédicacer.
Avec plaisir.
D'accord, hein, c'est gentil.
Donc vous ne pourrez pas l'offrir à qui que ce soit.
Et en vous souhaitant de bonnes fêtes.
Eh bien, je vous remercie, à vous aussi.
Bonne merci. Soirée, merci de votre écoute, Michel.
Soirée.
À très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
L'Auvergne bouge. Suivez-la avec les décodeurs sur France Bleu.
Bon, bah parlons justement de cette Arletty, de cette comédienne qui n'est pas auvergnate de naissance d'ailleurs, parce qu'elle est née à Courbevoie le 15 mai 1898. Une enfant plutôt modeste, une santé fragile. Ce qui lui vaudra de venir souvent dans la région, région dans laquelle l'Auvergne, elle a énormément de famille. Hein. Ses racines sont ici, Christian.
Toute sa famille.
Ouais.
Toute sa famille, puisque ses parents sont soit de Saint-Éloi-les-Mines, soit de Aïeul-sur-Sioule. Et aussi du côté de Charbonnières-les-Vieilles, où elle avait sa grand-mère qui tenait une boulangerie et une boutique, un petit endroit pour vendre aux gourdes Tazna.
Alors, je le disais, santé fragile, très tôt, elle vient, 4 ans, je crois, ou 5 ans.
Elle est venue dès l'âge de 5 ans.
5 ans.
Elle avait des problèmes respiratoires, donc il lui fallait l'air pur, donc elle va faire ses études, enfin, son école à Montferrand.
Oui.
Comme elle a de la famille partout, l'abbé d'Autrec, qui était à Montferrand, les grands-parents, et elle sera hébergée, donc 6 mois en Auvergne. 6 mois à Paris.
Et elle aime être en Auvergne, réellement.
Elle a toujours revendiqué. Ses parents sont auvergnats. Le père est parti pour faire son service militaire. Après, il a trouvé un emploi, donc il est resté. Et il était déjà avec sa femme.
Oui.
Et voilà, mais c'est, on va dire, des Auvergnats de Paris.
À l'âge de 11 ans, elle revient définitivement en région parisienne, à Puteaux. Mais elle revient quand même en Auvergne régulièrement pour les vacances. Elle revient à Sauxilange, à La Chaise-Dieu, à Husson. Bref, elle ne coupe jamais le lien avec la région. À Paris, elle va, en grandissant, apprendre la sténo. Et en 1916, en plein cœur de la Grande Guerre, elle est secrétaire du ministère de la Justice. Année durant laquelle son père meurt écrasé par un tramway. C'était d'ailleurs sa profession d'être dans l'univers.
Oui, c'était un responsable de dépôt de tramway.
Alors du coup, pour subvenir aux besoins de la famille, elle doit quitter son emploi, elle va travailler à l'usine avec sa maman, qui elle aussi va travailler à l'usine, et puis après elle va changer régulièrement d'emploi pour finalement devenir mannequin. Et en 1918, elle a 20 ans, et elle est abordée dans la rue par un homme. Voilà, première, parce qu'on vous dit qu'il y a toujours des rencontres. Bon, voilà, première grosse rencontre de la vie d'Arletty, c'est un certain Paul Guillaume. Qu'est-ce qu'il va lui proposer?
Alors, il va lui proposer de faire des photos. Donc, Arletty va rigoler, on imagine, à travers l'extrait qu'on a écouté, le caractère et le tempérament d'Arletty. Donc, elle va rigoler, et ce même personnage va lui dire, et le théâtre? Et Arletty va dire, elle rigole. Et n'empêche qu'il lui donne une carte de 2 théâtres à Paris, et un jour elle se rend dans ces établissements, et là le premier qu'elle va rencontrer va l'embaucher parce qu'ils sont en train de répéter une troupe et donc elle va l'embaucher, elle va être embauchée et c'est là où quand elle avait été mannequin, elle avait choisi le nom d'Arlette puisque son prénom c'était pas celui-là et elle avait retenu parce que dans le Montoriol de Maupassant la vedette c'est Arlette, ça lui avait beaucoup plu. Mmh. Et ce personnage qu'il embauche dans ce cabaret va angliciser son nom. Et Arlette va devenir Arletty.
Voilà. Alors, fil en aiguille, elle va rencontrer du monde, elle va fréquenter les soirées, elle devient meneuse de revue, elle travaille aux côtés de Rému, de Mistinguette, de Maurice Chevalier. En 1921, c'est sa maman qui quitte ce monde. Elle promet alors de s'occuper de son frère. Elle va continuer à travailler. Elle va même aller travailler jusqu'aux États-Unis, où elle partira en 1924. Et en 1930, ce sont les grands débuts au cinéma. Dans l'un des tout premiers films parlants, c'est la douceur d'aimer, qui a été sa première apparition au cinéma.
Qui est resté dans les annales.
Non, mais c'est le début. Et ensuite, elle enchaîne les rôles au cinéma, au théâtre. En 1932, il y a l'opérette Un soir de réveillon, qui est un succès colossal. D'ailleurs, un spectacle assez osé pour l'époque. Hein. Elle était à poil, non ?
Celui où elle était dans une baignoire ?
Ouais.
Oui, il y a un passage dans la pièce où elle doit chanter, je crois, dans la baignoire.
Je crois qu'elle sort de la baignoire.
Et tous les spectateurs attendent qu'une chose, c'est qu'elle sorte de la baignoire.
Elle le fait ou pas, d'ailleurs ?
Elle le fait, mais elle sort pas comme ça.
Ouais. D'accord. Ouais, donc grosse déception pour le public, mais comme personne, les gens étaient quand même dans l'espoir.
Après, Arletty n'était pas non plus très timide sur scène.
Non, c'est vrai. Elle déclare, j'adore cette phrase, moi, le théâtre c'est mon luxe, le cinéma mon argent de poche. C'est tout mignon. Autre rencontre déterminante, un certain Marcel Carné. C'est dans quelles circonstances qu'elle le rencontre?
Marcel Carné, quand est-ce qu'elle le rencontre? Je ne me rappelle plus.
Bon,
j'ai un trou de mémoire.
Mais c'est pas grave, elle le rencontre.
Oui.
Obligatoirement, puisqu'elle joue dans Hôtel du Nord.
Oui, elle va faire 4 films avec Marcel Carné.
Ouais, mais Hôtel du Nord.
Ah ben, c'est le premier.
Ben voilà. Alors c'est marrant, elle n'y a pas un rôle énorme. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire, le rôle est court.
Ouais.
Mais il y a cette scène sur le pont.
Ah ben voilà.
Et puis, il y a aussi le tempérament de Arletty, du coup, en tant que comédienne, qui ressort vraiment. Mmh. Et on avait rarement vu une comédienne de ce style. Jusqu'à présent.
Il rencontre aussi Jacques Prévert, pour qui elle a une immense admiration. Et puis ensuite, elle va tourner dans de nombreux films comme Fric Frac avec Fernandel et Michel Simon, Le Jour se lève avec Marcel Carné et Jacques Prévert. Et après, qu'est-ce qu'il y a après? Après, vous le saurez dans quelques minutes, dans une très courte pause. On continue à découvrir la vie d'Arletty avec Christian Robert ce soir pour les histoires de Vergnat. On vous retrouve, Christian, dans une minute. À tout de suite.
Vous êtes témoin d'un événement sur la route? Jouez collectif. Partagez l'info au 04 73 34 3000. Vous avez la priorité sur France Bleu Pays d'Auvergne.
France Bleu présente la tournée Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus 3.
Le masculin seul ne sert à rien. Mais le féminin seul n'est pas la solution non plus.
Il touche au sublime, le pauvre.
Paul Devendre et Thierry Garcia dans un tout nouveau spectacle pour mieux se comprendre et mieux s'aimer.
Paul Devendre, la super glue du couple contemporain.
Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus 3. En 2020, toujours en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Décodeur jusqu'à 19h.
Allez, les dernières minutes avec Christian Robert pour les histoires de Vergnat. On parle d'Arletty dans cette deuxième partie de l'émission. Arletty, évidemment, immense comédienne. On a parlé d'Hôtel du Nord, qui est effectivement le film qui la fera passer. Tout le monde connaît cette scène. Tout le monde connaît ça. Mais elle n'a pas fait que ça. La guerre éclate, la deuxième guerre, parce qu'on en a vécu deux, Arletty, la première et la deuxième. Elle devient la marraine de l'armée française. Ça veut dire quoi, ça, Christian, la marraine de l'armée française?
La marraine de l'armée française, ça voulait dire d'aller faire des spectacles, d'aller animer, remonter le moral des troupes
ouais.
militaires.
Qu'est-ce qu'elle fait pendant la guerre? Elle continue à travailler, à faire du théâtre, du cinéma?
Alors, elle continue à faire du théâtre et du cinéma, mais contrairement à certains comédiens ou certaines comédiennes, elle ne va pas faire de spectacle pour les sociétés allemandes. C'est le grand dilemme pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les comédiens, les artistes qui ont œuvré pour des producteurs allemands, et puis d'autres, non, Arletty ne l'a pas fait.
Les Enfants du Paradis, c'est pendant la guerre?
Oui.
C'est quand même un monument aussi de la de sa carrière, ce film-là.
C'est magnifique. Enfin voilà, c'est quand on parle, il y a quatre titres. Quand on parle de Arletty, quand on dit Hôtel du Noir, Le Jour se lève, Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis,
ouais.
Tout dit.
On est sur des monuments du cinéma, effectivement. C'est vrai qu'elle a été condamnée à mort.
Alors oui, par le tribunal d'Alger, tout comme Sacha Guitry, parce que. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a deux choses. La première, c'est que Arletty va tomber amoureuse d'un officier allemand, mais c'est une vraie histoire d'amour, pas de circonstances. Et la deuxième, c'est que quand Tristan Bernard et son épouse sont arrêtés, transférés à Drancy avant d'être déportés, dans ce milieu-là, bon, ils étaient amis avec Tristan Bernard, et comme Arletty et Sacha Guitry d'ailleurs connaissaient des officiers allemands à Paris, haut placés. Ils sont intervenus pour faire libérer Tristan Bernard en disant que pour la culture française, c'était pas possible et tout. Donc, ils vont obtenir la libération du comte Drancy de Tristan Bernard et de son épouse. Et Arletty dira, c'est la seule fois où j'ai demandé quelque chose aux Allemands.
Ouais. Bon, en tout cas, elle a elle-même été incarcérée à Drancy.
Mais à la fin de la guerre, la résistance va dire qu'elle a collaboré, Sacha Guitry aussi. Et les deux, par le tribunal d'Alger de Gaulle, seront condamnés à mort. Ils seront, Arletty sera emprisonnée pendant 16 mois, quand même.
Ah oui, jusqu'en mai 46, c'est là qu'elle sera libérée. Du coup, elle reprend ses activités. Quelques années plus tard, il y a, une petite bricole, un tramway nommé Désir, adapté par Jean Cocteau. Ça, c'était au théâtre. Puis au début, par contre, des années 50, elle commence à avoir de gros problèmes de vue. Ça, je l'ignorais, vous voyez.
Oui, oui.
Son dernier film, ce sera Le Voyage à Biarritz, avec Galabru et Fernandel. On est en 62. Et au final, elle va perdre complètement la vue, quelques années plus tard.
Oui, alors elle qui lisait beaucoup depuis son plus jeune âge. Après, ce sont ses amis qui viendront lui faire la lecture, par exemple, quand elle habitait rue de Rémusat. Et puis, il y a un personnage qui a fait énormément pour Arletty, avec une discrétion phénoménale, c'est Jean-Claude Brialy.
Oui. Alors, parce que oui, les dernières années de sa vie, alors elle s'est éteinte à l'âge de 94 ans, elle a quand même vécu très longtemps, mais avec peu d'argent, elle n'avait pas beaucoup de moyens sur les dernières années.
Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle a moins travaillé qu'avant, justement à cause
de cette histoire-là,
de cette image de collaboratrice qu'elle n'était pas.
Ouais. Et donc là, c'est Brialy qui l'a aidée.
Ah, Brialy a fait beaucoup, il y en a d'autres, mais Brialy a fait beaucoup, et Brialy, mine de rien, il avait passé une partie de son enfance à Issoire.
Ah oui.
Et c'est un ami intime de Marinette et Alain Gélinot, qui tenait le théâtre de Clermont-Ferrand, les fameux concierges du théâtre de Clermont-Ferrand.
Elle aimait vraiment l'Auvergne, Arletty. Vraiment.
Ah ben, Arletty, quand même, c'était quelqu'un qui était capable de vous expliquer comment on fait mûrir un gaperon. C'est pas rien.
Ouais.
Voilà, quand on sait comment faire mûrir un gaperon, et Arletty vous raconte ça. Elle a été aussi la première femme présidente des Auvergnats de Paris.
Ouais.
Et elle disait toujours que l'Auvergne se méritait, et que le Puy-de-Dôme était cher à son cœur.
Et ben voilà. Puis Arletty, elle est aussi impliquée dans cette chanson. La chanson que toute la France pourrait sans doute chanter en chœur à l'heure actuelle.
Il la trouva mauvaise, comme t'as bien entendu. Comme t'as bien entendu, au lieu de ramener sa fraise, comme t'as bien entendu, et se contente à ses coups de la pied au cul, comme t'as bien entendu.
Bah oui. Elle n'est pas possible, cette voix.
Elle est magnifique. Et puis, elle a chanté aussi en duo avec Michel Simon, cette chanson.
Ouais, bien sûr. C'est dans le film Circonstances atténuantes. On est juste avant la guerre.
Oui.
En 39. Parole de Jean Boyer. Comme de bien entendu. Tout le monde connaît ça. Bah, c'est elle. Voilà. C'est aussi Arletty qui est là-dedans. Retrouvez son histoire complète dans Histoire de Vernia, tome 1. À vous procurer d'urgence si vous voulez l'offrir à Noël. Parce que bon, il reste quoi? Une quinzaine de jours. Pas trop traîné non plus. Vous le trouvez partout. En tout cas, dans les librairies. C'est généralement là qu'on trouve des livres.
Oui,
c'est là
principe.
Où il est conseillé d'aller les chercher. Tome 1 et tome 2, de Christian Robert. Franchement, si vous avez des gens qui aiment l'Auvergne et qui aiment les histoires qui se lisent bien, parce que le gros avantage, ça, je le dis, je le répète, et c'est pas du tout parce que vous êtes là, je vous l'avais déjà dit en privé. C'est très simple de lire. On prend un personnage, boum, allez, on se prend, il y a 30 pages, 35 pages, 40 pages, ou 20, et hop, voilà, on peut refermer le livre le soir si on est fatigué, et demain, le lendemain, on attaque un autre personnage. Donc franchement, c'est très très bien. On peut vous voir quelque part dimanche ou pas? Non, on vous voit pas dimanche.
Alors, peut-être au salon des romanciers d'Auvergne à Combronde.
D'accord.
Toute la journée du dimanche, 10h, 12h, je crois, et 14h30, 18h.
Bon, eh ben, je vous souhaite d'y être.
Et ça sera le 15e anniversaire de ce salon.
Qui est très bien.
Oui, organisé par une association qui s'appelle l'Andra.
Combronde.
À Combronde.
Dimanche.
Dimanche.
Toute la journée.
On voilà, dimanche 15.
Vous retrouvez Christian et les histoires d'Auvergnat sur internet www.histoiredauvergnat.com. Grand merci d'être venu ce soir.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Bonne fin de journée, puis de belles fêtes de fin d'année. Peut-être qu'on ne se reparlera pas d'ici là.
Et à vous aussi, c'est et aux auditeurs aussi.
C'est très sympa. À bientôt, Christian.
Au revoir.